Fi. Comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une émission particulière que nous vous proposons aujourd'hui, chaque jour, à la fin de Priorité Santé. Je remercie l'équipe qui m'aide à préparer et réaliser cette émission. Alors aujourd'hui, ce serait difficile hein, parce qu'ils sont nombreux, 52 élèves de classe de primaire. Ils ont entre 9 ou 10 ans, la moitié se trouve à Dakar. Les 26 autres sont avec nous. Ici, ce sont les élèves d'une classe de CM1, des enfants qui ont choisi aujourd'hui le thème de notre émission, la mémoire et le cerveau. Et ça tombe bien parce que la semaine du cerveau vient tout juste de s'achever en France. Alors, nous sommes donc en plein dans l'actualité, choix du sujet donc, mais aussi des questions qu'elles ou ils vont, dans quelques instants, m'aider à poser à notre invité. Alors, pourquoi des élèves en direct aujourd'hui sur RFI ? Parce que c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école, 30e édition, pour faire comprendre aux élèves comment fonctionnent la radio, les journaux, les télés, les sites internet d'actualité. Qu'est-ce que signifie l'information ? Comment comprendre le monde permet de devenir un acteur de ce monde. Que peut-on croire et ne pas croire? Et comment transforme-t-on, c'est ce qu'on va voir dans notre émission, la curiosité en question et ces questions en information mise grâce à la magie des ondes, mise à la disposition du plus grand nombre pour vous, auditeurs qui nous écoutez, de Port-au-Prince à Kinshasa, en passant par Bamako, Lomé et Montréal. Alors bienvenue à tous, aux jeunes rédacteurs en chef d'un jour de Priorité Santé. La mémoire, le cerveau, pour en parler avec nous en studio, docteur Charles-Ambroise Valéry, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes neurochirurgien aux hôpitaux universitaires Pitié-Salpêtrière à Paris, docteur Valéry. Donc à mes côtés, pour poser toutes leurs questions sur le cerveau et la mémoire, une partie des élèves de la classe de CM1 de madame Valérie Esny, qui enseigne au sein de cette école primaire Robert Doisneau d'Issy-les-Moulineaux. Et tout à l'heure, d'autres questions seront posées par d'autres enfants. Nous retrouverons les élèves de l'école Reine Fabiola de Dakar, au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Charles-Ambroise Valéry, avant de céder le micro à la future génération, on va parler de cette mémoire. Mémoire infaillible, trou de mémoire, amnésie. Est-ce qu'il existe, docteur Valéry, des échelles, des niveaux pour évaluer la qualité de notre mémoire, de nos souvenirs, en fait notre capacité à retenir les informations ?
Alors, il y a ce qu'on appelle l'échelle du QI, du quotient intellectuel, qui comprend des éléments qui font référence à la mémoire. Ceci dit, il n'y a pas ce qu'on appelle une mémoire, mais plusieurs mémoires. La mémoire sensorielle, on y reviendra, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La vraie mémoire, celle qui nous sert vraiment à fonctionner, c'est la mémoire de travail, mais qui fait appel à une mémoire qui est stockée, qu'on appelle la mémoire à long terme. Donc, il n'y a pas de véritable échelle en dehors du QI, mais effectivement, c'est un outil qu'on utilise tous les jours de sa vie et effectivement qui nécessite un apprentissage de tous les instants.
Alors, on parle du cerveau, la mémoire. C'est le sujet qu'ont choisi ces élèves qui sont avec nous pour cette semaine de la presse et des médias à l'école. Mais le cerveau, docteur Valéry, ce n'est qu'un des éléments de notre mémoire, puisque d'autres organes sont mis à contribution pour acheminer, chercher ces informations.
Alors en fait, c'est le système nerveux avec ses ramifications sensorielles. Le capteur initial, c'est l'ensemble des cinq sens qui vont ramener l'information vers le cerveau, qui va traiter l'information et éventuellement la stocker dans les espaces dévolus à la mémoire, absolument.
Alors on va passer tout de suite, rentrer dans le vif du sujet avec une première question. Johan, je te regarde et c'est à toi de la poser, cette question au docteur Charles-Ambroise Valéry.
Quelle place prend la mémoire dans le cerveau ?
Alors,
il y a d'abord des places anatomiques connues. Il y a des endroits, par exemple, les lobes frontaux, qui sont en avant du cerveau. Il y a l'hippocampe, qui est une structure très particulière et très importante pour la mémoire, qui participe à la mise en mémoire, qui est très interne à l'intérieur du cerveau. Et puis, il y a les lobes temporaux, qui également servent d'espace de stockage. Ça, c'est la partie anatomique. Il faut savoir que la mémoire, c'est d'abord une dynamique. C'est des processus de circuits, dynamiques qui vont se dérouler sur l'ensemble du cerveau. Donc il y a à la fois un aspect localisé anatomique, mais en fait, quand on fait appel à la mémoire, on fait appel à l'ensemble du cerveau. Je te prends un exemple. Moi, je m'appelle Charles, mon prénom. Charles, c'est à la fois un son que je sais prononcer, donc c'est dans la région auditive. C'est en même temps ce que je peux lire, Charles, c'est je peux avoir une typographie sur un papier, je reconnais visuellement le mot Charles, ça c'est les aires visuelles. Et puis Charles, ça peut me rappeler Charles de Gaulle ou Charles Martel, qui sont des personnages historiques, et là c'est la mémoire pure et des connaissances. Donc tu vois qu'un simple mot, c'est une ramification, c'est une constellation autour de ce mot central, tu vois. Donc c'est un processus tout à fait dynamique.
Est-ce qu'on peut perdre, docteur Charles-Ambroise Valéry, est-ce qu'on peut perdre une partie de notre mémoire seulement, les souvenirs, je me souviens de votre prénom, mais par contre je suis incapable de me souvenir de, par exemple, de la ville où je suis né. Ça peut arriver ?
Oui, alors ça arrive en général dans des procédés de, dans des circonstances de dégénérescence cérébrale, où là il y a un morcellement de la mémoire qui n'est pas forcément, comment dire, harmonieux et qui va effectivement complètement désorganiser le fonctionnement mémoriel.
Alors avant de passer à la parole à Maëla pour sa question, docteur Valéry, je voulais juste vous demander à quoi ça sert la répétition ? Pourquoi quand on répète une information, elle s'enregistre mieux ?
Ben c'était justement, c'est un des procédés principaux de mémorisation. La révision, ce qu'on appelle, ou la répétition, permet, à partir d'une information sonore ou visuelle, mais surtout sonore au départ, de pouvoir faire passer cet élément de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Donc la répétition, la révision, les enfants, c'est très important.
C'est pour ça que les institutrices, par exemple, disent « relisez vos leçons ».
Voilà, et à voix haute en particulier, parce que vous faites appel à un sens qui est très puissant et qui vous permettra de pouvoir mieux incorporer la connaissance.
Maëla, c'est à toi de poser ta question, on t'écoute.
Est-ce que la mémoire des enfants est plus petite que celle des adultes ?
Alors, cette différence entre adultes et enfants.
Alors, le support de la mémoire, c'est-à-dire les cellules, je dirais non, la mémoire des enfants n'est pas plus petite, parce que vous avez plus de neurones que moi. On a un nombre maximum de neurones à la naissance, à peu près 100 milliards. Mais par contre, les connexions entre les neurones sont moins importantes. Pourquoi ? Parce que vous avez moins de vécu, donc vous avez moins de connaissances, et vous avez moins de méthodes pour organiser les connaissances entre elles, c'est-à-dire pour entraîner des connexions. Donc en ce sens-là, vous avez moins de place d'évoluer à la mémoire que nous.
Mais ils ont plus de possibilités à venir.
Des possibilités, absolument.
Mais est-ce qu'il y a justement une mesure est-ce que des gens, par exemple, ont des cerveaux plus gros que l'autre ? Est-ce que ça va avoir une influence sur leur capacité à mémoriser ou pas ? Non,
absolument
du tout
pas. Ce qui fait la force des neurones, c'est d'abord la complexité de leurs connexions entre elles.
Alors, quelque chose qui est important quand on parle de mémoire, ça c'est sûr, ça revient tout le temps, c'est la notion de durée, de temps. Et je me tourne justement maintenant, c'est Manon qui va poser sa question. On t'écoute, Manon.
Combien de temps faut-il pour oublier les choses ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a trois types de mémoire. La mémoire sensorielle, c'est-à-dire je suis en train de commencer une phrase et j'arrive à me rappeler du début de la phrase au moment où j'arrive à la fin de la phrase. C'est-à-dire que j'arrive à garder le sentiment, le son de l'ensemble de la phrase pour m'en rappeler et pour la comprendre. Donc ça dure quelques secondes, deux secondes maximum. Après, je vais l'oublier. L'information visuelle, elle, prendra même pas une seconde pour être oubliée. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, je vais transférer ça dans une mémoire à court terme qui va garder quelques secondes l'information, qu'elle soit visuelle ou auditive, et à ce moment-là, je pourrais organiser des stratégies pour accumuler, pour stocker cette information, et là, ça sera la mémoire à long terme qui peut durer des années. Donc, trois types de mémoire.
Et docteur Valérie, la notion de plaisir dans tout ça. Si on préfère quelque chose, est-ce qu'on le mémorise mieux ?
Tout
je pense
fait.
Par exemple à une recette de cuisine, si on aime faire un gâteau, ou si on aime particulièrement, je ne sais pas, une histoire, on mémorise mieux ?
Absolument, ça fait partie du contexte, et le contexte est extrêmement important dans la mémorisation.
Alors, une autre question tout de suite, c'est, je te redonne la parole, Johan, c'est à toi de poser cette deuxième question.
À quel âge on commence à perdre la mémoire ?
Alors, c'est entre 50 et 60 ans qu'on dit qu'on commence à avoir des problèmes de mémoire. C'est notamment la mémoire dite de rappel, c'est-à-dire par exemple se rappeler un nom. Je sais pas, chez vos grands-parents parfois, mais effectivement, ils se rappellent pas d'un nom, de quelque chose. Et ça, c'est vers 50-60 ans.
Et ça, c'est pour comment ça se passe justement ? Il y a des familles où on a par exemple une meilleure mémoire que d'autres, où il n'y a pas de dimension génétique ou héréditaire dans cette capacité à mémoriser. Certains parents ont envie de dire souvent oh, « moi j'avais une très bonne mémoire, toi j'espère que tu auras aussi un petit peu, tu marcheras dans mes pas, toi aussi tu auras une bonne mémoire ».
Je ne pense pas que ce soit une dimension génétique, mais plus une dimension individuelle, mais avec un environnement qui est favorisant ou pas pour l'acquisition de la mémoire. Il y a des familles où on favorisera des activités qui développe la mémoire.
Et justement, ces questions sur l'âge, hein, on va le voir, ce sont des questions qui reviennent souvent, que se posent notamment les enfants, docteur Valéry. Est-ce que c'est un aspect important, ce rapport entre, on va dire, le vieillissement, la santé du cerveau et la mémoire ?
Oui, bien sûr. On dit parfois que les vieillards retournent en enfance. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments de commun dans le fonctionnement de la mémoire. Par exemple, la mémoire de rappel, c'est-à-dire se rappeler d'une liste de noms, un enfant a beaucoup de mal à le faire. C'est-à-dire qu'à l'âge de 2 ans, par exemple, ou 3-4 ans, il y aura 2 mots qui pourront être rappelés, alors qu'à l'âge de 8-9 ans, 6 ou 7 mots pourront être rappelés facilement à la mémoire de l'enfant. Et c'est ce qui arrive aussi chez le vieillard qui va avoir du mal à se rappeler une liste de mots ou par exemple un numéro de téléphone un petit peu compliqué.
Et c'est pour ça qu'on aide en général avec des repères à ce moment-là. C'est toujours plus prudent que de compter, on dit compter sur sa mémoire.
Tout à fait.
Alors, docteur Charles-Ambroise Valéry, on a donc les enfants des questions avec nous ici en studio, mais on a aussi, comme tous les jours, dans Priorité Santé, les questions des auditeurs. Premier auditeur que nous avons en ligne, il nous appelle de la République démocratique du Congo, de la ville de Goma précisément, et c'est Crispin. Bonjour Crispin.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute, le docteur Valéry vous écoute.
Bonjour.
Oui, merci pour la question. J'ai d'abord un témoignage que je voulais partager par rapport au sujet du jour. En fait, j'ai un enfant de 3 ans, qui n'est pas encore inscrit à l'école, mais qui parvient facilement à compter des 0 à 10, qui arrive aussi à mémoriser une récitation de 5 phrases. Il est même aussi en mesure même de manipuler un téléphone, une télévision. Alors, la question que je pose à l'invité est celle de savoir si une fois l'inscrire à l'école avec son âge de 3 ans, est-ce que la matière qu'il recevra ne peut pas troubler sa mémoire ainsi que son cerveau? Et la deuxième question concerne sa grande sœur de Neva Itumi, qui est en 4e année primaire. Elle a bien commencé l'année, mais aujourd'hui, elle a un problème double souvent quand elle a des devoirs à l'école, arrive à la maison, elle a tout oublié et ne se souvient plus. Alors, comment on peut arriver à lutter contre l'oubli? Et quels sont les meilleurs aliments qui l'empêchent d'en faire donner aux enfants pour un simple de cultiver leur cerveau ainsi que leur mémoire?
Crispin, j'ai une question sur votre première question. Vous avez des doutes, vous êtes inquiet en fait que l'école abîme la mémoire de votre premier enfant, c'est bien ça?
Oui, parce que déjà à l'âge de 3 ans, bon, c'est vrai qu'il est trop intelligent par rapport à ce que je suis en train d'observer. Est-ce qu'avec la matière de l'école, avec son âge de 3 ans, ça ne peut pas aussi abîmer sa mémoire parce qu'il est encore trop petit? C'est ça mon inquiétude.
Je ne sais pas, je donne la parole au docteur Valéry, mais en général, l'école améliore les choses plutôt que le faire empirer au niveau des apprentissages.
Oui, je comprends l'inquiétude. Vous voulez dire par là que un enseignement qui est formaté à l'école peut détruire en quelque sorte quelque chose de naturel chez votre enfant et qui est remarquable. Moi, je ne pense pas que ça soit le cas, donc je vous rassure. Je pense qu'au contraire, la mémoire se nourrit d'elle-même et que les capacités que votre enfant montre à mémoriser seront au contraire développées et lui permettront d'avoir des connaissances beaucoup plus solides à l'école. Donc au contraire, ne retardez pas l'inscription.
Et la deuxième question porte sur d'éventuels aliments qui peuvent, on peut dire un anglicisme, booster, améliorer, favoriser la mémoire?
Alors ça n'a pas été prouvé. Alors on parle beaucoup de phosphore, on dit qu'il faut manger du poisson. Même moi, j'en mange encore avec cette arrière-pensée, mais je pense que ça fait partie un peu des légendes. Il faudrait des situations de carence importantes pour justifier une alimentation nécessaire pour la mémoire.
On va dire simplement une alimentation équilibrée et variée. Merci beaucoup pour vos questions de Goma, Crispin. On part pour le Bénin, pour Cotonou, où l'on retrouve Junior. Bonjour Junior.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, on écoute votre question, Junior.
Oui, voilà, bonjour docteur.
Bonjour.
Je vous appelle parce que j'ai constaté que j'ai commencé par avoir un problème de mémoire lorsque j'ai commencé par utiliser les anxiolytiques. C'est-à-dire, j'avais un problème de manque de confiance en soi, bien de peur, je vais être d'anxiété, quoi. Donc, je suis allé voir un médecin qui m'a prescrit un médicament anxiolytique qu'on appelle les Lysantia. Donc, je prenais 10 médicaments par jour, à chaque soir quand je voulais dormir. Mais j'ai constaté qu'à long terme, j'ai commencé à avoir des problèmes de mémoire. C'est-à-dire jusqu'au point où je me rappelle même le nom même de quelque chose, même d'un nom, j'avais des difficultés à me retrouver. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois, je sors comme ça et à la rencontre, je vois des anciens amis qui ne m'appellent pas mon nom. Mais je les regarde, mais je me dis, ouais, ça, je me rappelle de ceci, mais par contre, eux autres, ils appellent mon nom, ils ne m'appellent pas mon nom, mais parfois il va falloir que je bouge de là. je viens à la maison et après, c'est en ce moment que je commence à me rappeler du nom, de cette connaissance. Et je me dis, est-ce qu'il y a un moyen quand même de m'en sortir avec ce problème-là? Ma première question, c'est ça. La deuxième question, oui. C'est que j'ai constaté que quand je m'assois et que je ne commence pas à oublier quelque chose, je m'allonge sur le dos, je tourne à droite, ma tête à gauche, à droite. Et je constate qu'à force de tourner à gauche, à droite, je ne finis pas à me rappeler du nom, de la chose que j'oubliais. Et du coup, je me dis, bon, est-ce qu'il y a un problème là? Peut-être que quand je fais ces mouvements, ça me rappelle. Après ce que j'oubliais.
Donc deux choses. Alors sur l'impact des médicaments sur votre mémoire, Junior, je résume. Et puis vous faites des exercices apparemment de concentration pour faire revenir certains souvenirs sur ces deux points, docteur Valérie.
Oui, je pense que les médicaments, évidemment, comme les anxiolytiques, perturbent la mémoire. Hein. Tout ce qui agit sur le système nerveux agit sur le fonctionnement du système nerveux et donc sur la mémoire. Donc, il est évident que on sait quand on prescrit ce genre de médicament, qui est peut-être utile pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas, peut expliquer ces troubles de la mémoire. Et il n'y a aucune solution si ce n'est d'arrêter ces médicaments.
Hein. D'arrêter avec l'accord de votre médecin.
Avec l'accord du médecin.
Progressivement,
absolument,
certainement.
Absolument.
Et puis ces exercices de mémoire, ça, chacun peut se fixer des objectifs pour aller puiser dans sa mémoire.
Oui, tout à fait. Il y a des sortes de procédures que chacun développe, des stratégies pour optimiser sa mémoire, comme pour optimiser d'ailleurs tout ce qu'on fait. Il y a un caractère très personnel, y compris à l'utilisation de sa propre mémoire. On a un mode d'emploi qu'on découvre au fur et à mesure. Et vous, apparemment, vous avez découvert un mode d'emploi avec ses mouvements de droite et de gauche. Moi-même, par exemple, quand je veux réfléchir, je marche de long en large plutôt que de rester statique. Et il y a une espèce de mouvement qui se produit interne qui est lié au mouvement de déambulation. Donc, je peux comprendre ça.
C'est lié à la concentration, en quelque
absolument,
sorte.
Absolument, capacité d'attention, de concentration, tout à fait.
Voilà, ben merci beaucoup pour vos questions, Junior, qui était donc en ligne de Cotonou au Bénin. On poursuit notre découverte des relations entre la mémoire et le cerveau dans Priorité Santé, avec toujours ces questions des élèves de l'école primaire Robert Noineau d'ici les Moulineaux, et avec vos réponses, hein, docteur Charles-Ambroise Valérie. Alors, parmi ces élèves de CM1, on retrouve Maëla. Tu as une autre question à poser au docteur Valérie.
Pourquoi, quand on écoute de la musique, on s'en souvient et on la garde en mémoire?
Ah, une question très intéressante. D'abord, les circuits de la musique sont les mêmes que ceux de la mémoire. Ça se trouve au même endroit. Donc effectivement, la musique a une porte d'entrée tout à fait remarquable dans la mémoire, puisque quelque part, elle fait partie des mêmes circuits. Ensuite, il y a un aspect de satisfaction. En d'autres termes, tu ne retiens pas toutes les musiques, probablement, mais celles que tu aimes. Et tu aimes ensuite à t'en rappeler. Et le fait que tu aimes justement cette musique va faire que tu vas t'en rappeler beaucoup plus facilement que si tu ne l'aimais pas. Voilà.
Et ça va aussi bien pour, on va dire, la musique, la mélodie, que pour les paroles?
Ah oui, tout à fait, c'est lié. Il y a effectivement deux aspects par exemple à une chanson. Il y a le texte et il y a la mélodie, mais je pense qu'on peut pas facilement les dissocier, en l'occurrence.
Et notre capacité, par exemple, y compris pour des enfants comme ici qui ne connaissent pas la langue anglaise, comment se fait-il qu'on parvienne à se souvenir de chansons en anglais alors qu'on ne maîtrise pas le sens?
Justement, je pense que le sens à ce moment-là n'apparaît pas. C'est une sorte d'entité unique qui est la mélodie associée à des sons qu'on émet, qui sont donc des phonèmes sans sens, je dirais, pour des enfants qui ne maîtrisent pas la langue, mais qui vont faire partie d'un tout qui est stocké, qui est intégré par, entre guillemets, plaisir.
Docteur Charles-Ambroise Valérie, on peut s'interroger donc sur ces chanteurs qui connaissent des dizaines de chansons, on va dire même ces acteurs qui retiennent des pièces entières. Est-ce qu'ils ont des capacité innée, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils travaillent? Et autre question, moi aussi je suis curieuse, est-ce que ça se voit dans leur cerveau qu'ils ont justement fait travailler leur capacité de mémorisation?
Alors je pense qu'au départ il y a des facilités, c'est-à-dire que nous tous avons des facilités particulières, et certains ont des facilités mnésiques évidentes que probablement ils ont détectées eux-mêmes dès l'enfance et qui se développent. Ensuite il y a le travail et l'envie de travailler. Quand on a envie justement de produire une pièce de théâtre, de faire un rôle, je pense qu'à ce moment-là on développe une envie, une appétence, un appétit pour la mémorisation du rôle en question, qui fait qu'on va avoir une facilité très grande et qu'on va augmenter ses capacités au fur et à mesure de sa carrière.
Alors, oui.
Non, il y avait l'autre aspect que vous disiez, c'est-à-dire
la visualisation de cette capacité. Est-ce qu'on va dire qu'on a un espace plus important où sont rangées toutes ces pièces, toutes ces chansons?
Alors, sur le plan, par exemple, de l'imagerie fonctionnelle, je ne sais pas si ça a été vu. Probablement que si, probablement qu'il y a un développement, comme dans tout ce qui est dans le corps. Lorsqu'on développe une fonction de façon importante, la place dévolue à cette fonction, en général, augmente aussi.
Alors, de la musique, justement, la programmation de nos jeunes rédacteurs en chef d'un jour. On marque une petite pause pour permettre aussi à d'autres élèves de venir prendre le relais et poser à leur tour leurs questions. Cette pause, donc, c'est votre choix, votre chanson, Big Flo et Oli, et ce titre, plus tard.
Priorité santé,
Big Flo et Oli. Tu connais, non ?
Sur RFI.
Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard. Et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, les photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard.
Big Flo et Oli sur RFI dans Priorité Santé. On continue de parler du cerveau et de la mémoire avec, comme on dit, aux manettes de l'émission dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école, les élèves du CM1 de l'école Robert Doisneau d'Issy-les-Moulineaux. Et avec nous en studio pour poser donc ces questions, ces élèves, pour y répondre, le docteur Charles-Ambroise Valéry, neurochirurgien aux hôpitaux universitaires Pitié-Salpêtrière à Paris. On a évoqué la mémoire musicale, plein d'autres choses dans la première partie de l'émission. Et tout de suite, eh bien, une nouvelle question, docteur Valéry. Je me tourne vers Erel. Ta question, Erel.
Comment fonctionne la mémoire photographique ?
Ah, alors mémoire photographique, tu veux dire par la mémoire visuelle ?
Oui.
Bon. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une mémoire d'abord sensorielle, c'est-à-dire que le sens nous apporte une information. En quelque sorte une question. Et là, en l'occurrence, là, tu vas avoir donc quelque chose que tu vas avoir, par exemple, une phrase ou un visage. Donc ça peut être la reconnaissance du visage ou ça va être la compréhension d'une phrase. Et donc ça va être intégré dans la mémoire ensuite de travail. Une phrase, ça veut dire quoi? T'as par exemple 10 mots, il va falloir que tu lises les 10 mots et qu'au 10e mot, tu te rappelles encore de ce que était écrit au début de la phrase. Sinon, cette phrase n'aura pas de sens pour toi. Et bien ensuite, tu vas pouvoir intégrer, grâce à cette mémoire de travail, le contenu de cette phrase dans ta mémoire long terme. D'accord. Donc ça, c'est la mémoire visuelle. Ensuite, tu as des stratégies, par exemple. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle, comme on dit. C'est-à-dire que, par exemple, si ils voient une carte, ils visualisent, par exemple, les pays sur la carte, ils se rappelleront des pays qui sont dedans plus facilement que s'ils alignent sur une liste le nom des pays comme ça, de haut en bas. Ça, ce sera plus difficile de mémoriser. Donc, ils mentalisent la carte, et comme ça, il se rappelle de tout ce qu'il y a sur la carte. Il y avait un grand philosophe grec qui s'appelait Aristote, et qui avait trouvé une façon de faire de ce qu'on appelle des moyens mnémotechniques, c'est-à-dire comment se rappeler, par exemple, d'une liste de courses que tu vas faire. Hein, tu as 15 choses, ta maman t'a dit 15 choses, t'as oublié la liste, comment tu fais? Ben, en fait, il disait, on se représente qu'on rentre dans une maison, qu'on monte l'escalier, qu'on va dans une pièce, puis dans une autre, et à chaque que tu fais, quand tu, par exemple, t'es dans l'escalier, tu te dis, ça, c'est la salade. Ensuite, t'es arrivé au premier palier, là, tu dis, là, c'est des carottes. Tu rentres dans une pièce qui t'associe à la viande, et ensuite, et ainsi de suite. Et ensuite, tu te fais que te représenter ta balade dans la maison. Et donc, tu retrouveras tous les ingrédients de tes courses grâce à ce moyen-là. Tu vois, c'est la moyen mnémotechnique. Et puis, il y a enfin, dernière chose, la mémoire dite photographique véritable. Il y a des gens qui sont des surdoués et qui sont capables de te lire quasiment un bottin en se rappelant de quasiment l'ensemble des pages, comme ça, comme s'ils avaient pris une photo. Mais ça, c'est exceptionnel. Voilà.
Et ces personnes ont un cerveau comme tout le monde ?
Alors, je pense que ce sont l'objet d'études, mais effectivement, mais je ne crois pas pour l'instant qu'on ait une explication bien réelle pour comprendre comment ça fonctionne.
Docteur Valérie, pourquoi certaines personnes retiennent mieux quelque chose lorsqu'elles l'écrivent plutôt que simplement à le lire ?
Alors, parce que lorsque vous allez écrire, vous allez augmenter les sources d'information. Vous avez d'une part la vision qui vous apporte l'information, et puis en même temps, en l'écrivant, vous faites un mouvement dans l'espace qui lui-même va reproduire l'information. Donc vous avez un deuxième porte d'entrée. Et plus vous multipliez les portes d'entrée, plus la profondeur de l'acquisition mnésique est importante.
Alors tout de suite, une question d'un autre élève de CM1. C'est toi, Célian, à toi de la poser.
Comment fait-on pour développer sa mémoire, notamment pour mieux apprendre ses leçons ?
Bon, question pratique, hein.
Très pratique. Et ce qu'il faut faire, en fait, on le sait, c'est que tu dois travailler ta mémoire de travail. Ta mémoire de travail qui va ensuite permettre d'acquérir à plus long terme ce que tu as appris, va nécessiter de ce qu'on appelle la révision ou la répétition. Il faut répéter, répéter, répéter. Alors ensuite, il y a une méthode. Il y a la répétition, mais il y a la méthode. C'est-à-dire que, par exemple, tu te dis, si tu as à apprendre, par exemple, la liste mouton, cheval, table et chaise, tu vas dire, bah, j'ai d'une part le mobilier que je dois apprendre, et puis il y a les animaux. Et donc, si tu dis, j'ai la partie animaux et la partie mobilier, tu grouperas dedans chacun des deux éléments que je t'ai mis. Et tu te rappelleras plus facilement ensuite du contenu que si tu avais appris les quatre mots comme ça, tu vois. Tu catégorises. Donc, en quelque sorte, c'est comme une commode où tu as tes affaires. Tu vas mettre des affaires, mais si tu construis d'abord la commode avec les tiroirs, tu sauras que le tiroir en haut à droite, c'est là où t'as mis tes slips, et ce tiroir en haut à gauche, c'est là où t'as mis tes chemises, et ainsi de suite. Si tu construis cette commode pour toi, sur mesure, tu sauras mieux ensuite comment la remplir et ce qu'il y a dedans.
Docteur Charles-Ambroise Valérie, est-ce qu'il y a des neurologues qui travaillent avec des enseignants pour optimiser, pour améliorer la façon d'apprendre et de retenir les informations?
Très franchement, je ne sais pas. Probable qu'à l'éducation nationale, il y a des conseillers médicaux, parce qu'il y en a toujours, et qu'effectivement, dans les programmes notamment, en termes de quantité de travail, en termes de pédagogie, il y a effectivement des experts médicaux qui interviennent. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau se situe cette interaction.
Alors, c'est à ton tour, hein, Lou, de poser ta question au docteur Valérie, vas-y.
Pourquoi n'a-t-on pas de souvenirs de quand on était bébé ?
Alors là, tu fais appel à ce qu'on appelle la maturation du cerveau. En fait, comme je l'ai expliqué, l'essentiel de la multiplication des neurones se produit avant la naissance. Pour donner un exemple, on produit à peu près 3000 neurones par seconde dans le ventre de la mère. 3000 cellules par seconde sont produites. Bon. Donc on ne devrait jamais être plus intelligent qu'au moment où on est, parce qu'on a un nombre de neurones maximal. Mais il n'y a pas beaucoup de connexions entre eux. Et effectivement, la mémoire, comme les autres fonctions cérébrales, nécessite des connexions. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir créer des rappels et faire marcher cette mémoire. Et donc, il faut un certain temps au moment de la naissance pour arriver à établir ces connexions dans la mémoire. Et en général, il faut au moins 3-4 ans, au moins 2 ans disons, mais en général 3-4 ans pour avoir une mémoire qui peut fonctionner avec des souvenirs. On peut avoir des souvenirs lorsqu'on a par exemple 2 ans, mais ces souvenirs durent à peu près quelques mois et après s'effacent. Donc c'est pour ça que tu n'as pas souvenir de toute jeune enfance.
Oui, mais parfois on voit des photos et on a l'impression de se souvenir de quelque chose. C'est vrai ou c'est faux?
Ah, c'est tout à fait exact. Ça peut être vrai ou ça peut être des faux souvenirs. Et parfois, souvent, c'est parce que dans la famille, on a parlé de choses qui se sont passées de son enfance, qu'on les incorpore et qu'on en fait des faux souvenirs.
Est-ce que des machines, à terme, pourraient aller rechercher nos vieux souvenirs de nos premières heures? On est un peu dans la science-fiction, mais bon, je sais pas.
Si on pouvait,
est-ce qu'il y a un lieu de stockage sans connexion?
Non, justement. Il y a une zone de stockage, mais qui est assez vaste, qui est le lobe temporal. Et sinon, ce sont des circuits très dynamiques. Donc, justement, il n'y a pas de sectorisation très précise de chaque souvenir.
Alors, une autre question tout de suite. Une autre question que va poser tout de suite RL.
Pourquoi oublie-t-on des choses quand on vieillit?
Cette question de l'âge, hein, ça travaille beaucoup de monde.
Oui, je comprends. Parce que, en fait. Alors le pourquoi est assez difficile. D'abord, on oublie moins de choses que ce qu'on veut bien dire. C'est-à-dire que effectivement, à partir, comme je dis, de 50-60 ans, on commence à avoir un oubli sur un nom propre, notamment. Puis ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va avoir du mal à mémoriser une catégorie de mots. Comme on disait tout à l'heure, 7-8 mots, ce sera difficile. Ce sera plutôt 6 ou 5. Ou alors des chiffres, c'est pareil, un numéro de téléphone avec 10 chiffres. Alors, il y a des stratégies ensuite pour essayer quand même de se rappeler. Par exemple, le 0-1 avant les autres chiffres ou le 0-6, ben, on en fait une entité qui est, on sait que c'est un 0-6. Donc, on n'a pas besoin de s'en rappeler. Et après, il n'y a plus que 8 chiffres à se rappeler. Il y a des tas de stratégies. Mais malgré tout, au bout d'un moment, cette mémoire de travail fatigue. Pourquoi? Ben, le vieillissement cérébral existe. Est-ce que c'est forcément parce qu'il y a de moins en moins de neurones? Non, parce qu'on perd des neurones quasiment dès la naissance. Donc, en fait, comme je disais, on a un nombre de neurones maximum à la naissance, mais après, par contre, ils vont décroître. Mais on en a beaucoup trop pour ce qu'on en fait, en toute façon. Donc, non, c'est pas ça l'explication. C'est probablement dans la capacité de pouvoir utiliser cette fameuse mémoire de travail, si tu veux, et qui perd. Alors, peut-être aussi des troubles de l'attention, ça intervient, parce que il faut être très concentré et il faut être en quelque sorte très omnubilé par ce qu'on fait pour être très efficace. Et les personnes âgées ont plus de porosité, c'est-à-dire que les bruits à l'extérieur, le fait que ça leur gratte sur la peau, etc., vont interférer sur leur tâche au moment où ils vont essayer de mémoriser. Donc, elle sera moins efficace.
Et c'est peut-être aussi pour ça que les institutrices disent arrêtez de discuter, parce que tout ce qui arrive de l'extérieur va empêcher la concentration et la mémorisation.
Absolument. Et par exemple, je ne veux pas faire de moi un public qui serait opposé à ce que je vais dire, mais malgré tout, c'est vrai que les consoles, les téléphones portables sont des sources d'interférence face à l'attention. Et la capacité de pouvoir se concentrer est fondamentale pour l'acquisition.
Donc quand on lit, et quand on fait les devoirs, il n'y a pas de téléphone à côté pour nous perturber et pour porter l'attention sur autre chose de moins important que son avenir et ses études. Ça, j'ai fait un petit peu ma petite maîtresse d'école. Donc Lou, tu as une autre question à poser.
À quel âge commence-t-on à oublier des choses?
Alors ça coupe un petit peu, tu sais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vers 50-60 ans, en général, on commence à avoir des petits oublis sur un nom propre notamment, et voilà, ça commence à ce moment-là.
Et justement, tout à l'heure, on parlait des exercices, est-ce qu'il y a de la prévention? Est-ce qu'on peut justement s'entraîner pour éviter d'arriver à ce moment fatal après la cinquantaine, où on commence un petit peu à perdre la mémoire?
Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, on peut s'exercer, l'exercice est toujours intéressant, et puis avoir des stratégies, de rappels qui sont suffisamment élaborés pour permettre de pallier un peu à cette carence effectivement qui se produit inéluctablement malheureusement.
Ça veut dire que certaines personnes qui ont perdu la mémoire ne pourront pas la retrouver?
Alors tout dépend dans quelles conditions vous perdez la mémoire. Ça peut être une perte de mémoire par une amnésie post-traumatique. Quelqu'un va récupérer et il récupérera probablement à peu près tout ce qu'il a en tête. Par contre, le vieillissement cérébral, lui, est inéluctable mais il peut être combattu par un entraînement.
Alors, une toute dernière question des élèves qui sont avec nous en studio, c'est Célian, c'est à toi de la poser, on t'écoute.
Quelle est la différence entre notre mémoire et celle des robots?
Ah, ça c'est une question extrêmement intéressante.
Et qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une autre émission. Hein.
Tout à fait. Alors, la mémoire des robots, c'est la mémoire en fait de l'ordinateur, c'est l'intelligence artificielle. C'est d'abord un système qui est à très haute vélocité, c'est-à-dire que ça va très très vite, ça calcule très vite, et surtout, c'est une mémoire en série. Je te prends un exemple. Imagine que je te dise, dis-moi quel est cet animal. Ça commence par une lettre C. Il est de couleur jaune. Il vit dans une basse-cour et il émet des grognements. C'est quoi ? C'est un animal. Ça commence par une lettre C. Il est dans une basse-cour. Il émet des grognements. Il est de couleur jaune.
Jaune ?
Tu dirais quel animal ?
Je sais pas.
T'as pas une idée ?
Un canard ?
Ah.
C'est vrai, s'il est fâché, il peut grogner le canard.
Grognement.
Bah oui, mais si on essaie de lui tordre le cou, il a grogné.
Alors moi, j'aurais pensé au cochon. Un grognement, c'est plutôt un cochon quand même. Mais effectivement, et c'est à
tuer. Il est malade du foie, votre cochon. Hein.
Voilà, il est jaune. Non, mais le rappel, normalement, c'est cochon. Mm-hmm. Mais il se trouve que, ça colle pas avec jaune, mm-hmm. mais il se trouve que la plus grande probabilité avec un animal dans une basse-cour et mentalement, on pense tout de suite au cochon. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on élimine même l'information qui est discordante, qui est la couleur jaune. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque j'ai été dit ça, je t'ai demandé en fait de prendre plusieurs catégories. Tous les animaux qui dont la lettre commence par une lettre C. Donc, t'as lancé une recherche. Tous les animaux qui ont une couleur jaune, t'as lancé une recherche. Tous les animaux qui sont d'une basse-cour, t'as lancé une recherche. Et tous les animaux qui mettent un grognement. Un ordinateur, il va faire ça systématiquement. Il va prendre tous les animaux donc qui ont une lettre C, etc. Nous, non, on lance 4 recherches en même temps. On a un traitement de l'information qu'on appelle en parallèle. C'est comme si on avait 4 petits ordinateurs qui s'étaient mis à chercher chacun une des caractéristiques. Et donc, c'est un système qui est productif et qui va beaucoup plus vite au résultat. Contrairement à un ordinateur. Ça, c'est fondamental et ça différencie complètement la mémoire des ordinateurs ou le fonctionnement des ordinateurs et celui de l'homme.
Alors, on va quitter, si vous le voulez bien, le studio. L'information sans frontières, c'est précisément le thème de cette année, de cette 30e semaine de la presse et des médias dans l'école. L'information sans frontières, on connaît bien ça sur RFI. On part tout de suite pour Dakar.
RFI à Dakar. 92 FM.
Et on a mis tout le monde au travail et ça continue de parler et d'échanger ici en studio. On va pas s'arrêter pour autant. Alors on a demandé à d'autres enfants de nous aider à préparer l'émission, de réfléchir sur ce sujet du cerveau, de la mémoire. Ce sont les élèves de l'école primaire Reine Fabiola avec une première question que nous avons enregistrée pas plus tard qu'hier.
Bonjour, je m'appelle Saïd. J'ai 9 ans et demi. J'ai une question. C'est quoi les neurones? Et combien il y en a dans le cerveau? Il paraît que les neurones peuvent mourir, alors j'aimerais savoir ce qui se passe quand un neurone meurt.
Alors, question de Saïd sur les neurones, docteur Charles-Ambroise Valéry.
Alors, qu'est-ce qu'un neurone ? C'est l'unité cellulaire du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau est composé de neurones qui sont des cellules particulières parce qu'elles ont une excitabilité électrique et qu'elles peuvent créer des interactions entre elles qui se font avec un intermédiaire qui s'appelle les synapses. Donc, c'est des liens entre les neurones et qui vont créer donc des circuits. Et c'est ces circuits qui vont être le support même du cerveau. Ensuite, il y en a combien à peu près 100 milliards à la naissance.
C'est invisible à l'œil nu, ces neurones.
C'est des cellules de quelques microns, donc totalement invisibles, oui, tout à fait. Et chaque cellule est capable de former plusieurs milliers de liaisons avec des cellules environnantes.
Et quand un neurone meurt, est-ce que c'est de la matière qui disparaît ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non, c'est remplacé en général par de la gliose, c'est-à-dire par des cellules qui environnent et qui servent de support aux neurones, mais qui ne sont pas des neurones elles-mêmes.
Et est-ce qu'il y a des moyens de retarder cette disparition neuronale ou de faire en sorte, on parle depuis tout à l'heure d'exercice, de prévention, de choses comme ça, pour essayer de stimuler sa mémoire et son intelligence ? Ça a une réalité physique ?
Alors en fait, il y avait un dogme au départ, on disait que les neurones ne pouvaient que mourir. Il y avait une multiplication importante jusqu'à la naissance, puis après on ne faisait qu'en perdre. En réalité, on a compris que c'était pas vrai. Et que maintenant, on sait que tous les ans, à peu près, on reproduit 1 à 2% des neurones, y compris jusqu'à des âges tardifs, 60-70 ans. Donc très curieusement, on sait qu'en fait, on perd des neurones, mais on sait aussi en fabriquer. D'autre part, il y a un élément qu'on appelle la plasticité neuronale, qui est la capacité d'adaptation des circuits, donc des neurones entre eux, et qui, elle, reste, faisable toute la vie.
Comment se fait-il qu'après certains accidents, par exemple, on pense à un accident vasculaire cérébral, des gens se réveillent, je vais parler simplement pour être compris du plus grand nombre, pour être compris du plus grand nombre, ils se réveillent un petit peu bêtes, et puis au fur et à mesure, ils retrouvent la parole, l'intelligence, ils reconnaissent leur entourage. Comment ça se fait que tout ça se passe progressivement comme ça, par palier?
Mais parce que c'est le cerveau en soi ne peut pas récupérer s'il n'y a pas un entraînement. Et ce qui va se passer, c'est que la rééducation, en l'occurrence après l'accident vasculaire, va créer un recrutement d'autres cellules qui n'étaient pas au départ dévolues à cet emploi et qui vont être recrutées pour pallier au déficit lié à la destruction de certaines cellules.
Un remplacement en quelque sorte.
Un remplacement.
Alors tout de suite, docteur Valérie, une autre question de Dakar.
Bonjour, je m'appelle Hama et je vais bientôt avoir 10 ans. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi on n'est pas tous intelligents de la même façon et comment on peut faire pour devenir encore plus intelligent.
Est-ce qu'il y a des échelles d'intelligence?
Oui, il y a ce qu'on appelle classiquement le quotient intellectuel, hein, qui teste plusieurs fonctions cognitives cérébrales. Mais moi, plutôt que d'intelligence, je parlerai de compétences. On a des facilités au départ pour des choses variées. Ça peut être pour le raisonnement, pour la mémorisation, pour un aspect plutôt artistique. Enfin, il y a différentes façons d'être compétent. Ensuite, le terme intelligence se rapporte notamment au domaine scolaire, puisque finalement, on a, entre guillemets, normé un petit peu la façon de pouvoir être compétent.
C'est plus performant.
Voilà. Et performant dans des activités qui ensuite produisent une vie professionnelle qui est intégrée normalement à la société. Donc effectivement, il est plus dur dans ce système-là d'être au départ artiste par exemple, parce qu'il faudra arriver à développer par soi-même des compétences qui seront reconnues ensuite par le public par rapport à quelqu'un qui serait fort en sciences et qui aurait moins de difficultés dans un circuit normal de professionnel pour se faire reconnaître. Mais on a tous des compétences. Alors ensuite, il y a le point de départ, puis on peut les développer. Et ça, effectivement, c'est le rôle du travail.
Et les parents constatent, à certains moments du développement des enfants, des questions un peu de maturité. C'est-à-dire, il y a des clichés, par exemple, on dit, en général, les filles vont très vite à l'école jusqu'au collège, et puis on dirait un petit peu que les garçons se réveillent au lycée. Est-ce que c'est quelque chose qui a une réalité scientifique, ou c'est des préjugés ?
Je n'ai pas une idée très claire de ça. Effectivement, on observe parfois ce que vous dites, c'est-à-dire une sorte de maturité plus importante, une précocité plus importante des filles au départ, qui ensuite sont rattrapées par les garçons. On sait que les garçons ont une facilité plus grande aux tâches visio-spatiales, qui peuvent ou d'abstraction en mathématiques, ça a été décrit assez souvent. Il y a peut-être une réalité là-dedans, mais je ne pense pas qu'il faut avoir d'idées toutes faites là-dessus.
En tout cas, chacun a sa place à n'importe quel moment de la vie.
Absolument.
Alors, pour conclure, une troisième question, toujours posée par un des élèves de Dakar.
Bonjour, je m'appelle Néné et je voudrais savoir ce qui se passe au niveau du cerveau quand il y a un choc, par exemple, dans la cour de récréation ou à la maison, quand on se cogne très fort ou que l'on tombe sur la tête. Qu'est-ce qui se passe ?
Traumatisme crânien, choc, commotion, qu'est-ce que ça fait au cerveau tout ça, docteur Valérie ?
Alors un ébranlement peut conduire notamment à une perte de connaissance. Et si on a une perte de connaissance, effectivement, il y a comme un reset. Vous savez, quand on appuie sur le bouton de l'ordinateur parce qu'il fonctionne pas très bien, et puis tout va repartir. Donc effectivement, en général, heureusement, c'est des phénomènes réversibles. Mais effectivement, cette espèce de choc cérébral, cette vibration liée au traumatisme, fait que le cerveau a physiquement reçu un coup. Et alors évidemment, il y a des coups qui crée des blessures du cerveau, et à ce moment-là, la récupération sera moins facile, et puis des ébranlements de moindre importance qui vont permettre une récupération après un délai, avec parfois d'ailleurs une perte de mémoire des faits qui se sont déroulés immédiatement avant le choc. Ça s'appelle l'amnésie rétrograde.
Est-ce que le cerveau prend toute la place dans notre boîte crânienne, ou est-ce qu'il se balade un petit peu ?
Heureusement, il n'est pas totalement comprimé, c'est-à-dire qu'il y a un sas qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien, qui est une sorte de sas liquidien qui permet justement d'atténuer les chocs liés au mouvement brusque de la tête.
Et c'est particulier au début de la vie, chez les bébés, c'est pour ça qu'on dit de faire particulièrement attention pour la santé des bébés, pour leur développement, parce que eux, leur cerveau est un petit peu particulier. En grandissant, ça va changer, docteur.
Oui, c'est-à-dire que le cerveau des enfants étant pas encore mûr, effectivement, il y a des espaces qui vont faire que le choc peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes au cours du développement du cerveau, absolument.
En tout cas, c'est pour ça que quand on fait du sport, quand on fait des sports un petit peu dangereux, on dit de mettre un casque,
voilà.
D'absolument protéger sa tête, qu'on fasse aussi bien de la trottinette, du vélo, que n'importe quel sport, même des sports de plein air, comme du ski, etc., pour se protéger absolument, et également les sports de combat comme la boxe ou le rugby, où il y a beaucoup de commotion cérébrale.
Tout à fait. Hein. Vous prenez soin de vos tablettes et de vos ordinateurs, vous prenez soin de votre cerveau, parce que c'est votre disque dur à vous.
Et on remercie bien sûr l'école Reine Fabiola de Dakar, hein, qui nous a permis de préparer cet échange avec ses élèves, l'institutrice Madame Fatoussar, la directrice Madame Fatoussen. Et comme toute la classe, on le sait, hein, ils écoutent en ce moment à Dakar Priorité Santé en direct. Et ben on leur adresse un grand bonjour, un coucou de Paris.
Priorité Santé sur RFI.
Ce n'est pas tout à fait fini, mais on arrive à la conclusion de notre émission, docteur Charles-Ambroise Valéry. On a beaucoup posé de questions au cours de cette émission sur le fonctionnement de la mémoire. On a entendu que ce sujet passionne à tout âge. On peut peut-être terminer par quelques messages de prévention face, par exemple, à des problèmes qui arrivent tout d'un coup, des chocs soudains, certains symptômes. Qu'est-ce qu'il y a comme signes, docteur Charles-Ambroise Valéry, qui doivent pousser à consulter, à aller au service des urgences sans délai?
Vous parlez d'un point de vue général,
d'un point de vue médical, absolument.
Des maux de tête très violents, associés notamment à des vomissements, des maux de tête très violents doivent être considérés avec sérieux, surtout s'ils résistent à des médicaments comme le Doliprane, qui est censé bien traiter les maux de tête habituels. Si ça ne cède pas à ça et si c'est persistant, il faut aller consulter. Si évidemment vous avez également quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre langage d'un seul coup, une difficulté à articuler, une difficulté à bouger un bras, une jambe, des sensations étranges au niveau de la sensibilité de votre peau, par exemple. Bref, une modification du fonctionnement de votre corps qui donne l'impression que c'est le système nerveux qui est atteint, évidemment, il faut aussi consulter. Enfin, des mouvements, des sortes de crispations avec perte de connaissance, par exemple, ou même des pertes de connaissance simples, doivent aussi faire consulter. Mais évidemment, à ce moment-là, vous êtes transféré directement par le SAMU, puisque c'est plus vous qui êtes aux commandes.
Docteur Charles-Ambroise Valéry, vous travaillez depuis longtemps sur toute cette science du cerveau. Est-ce que les outils ont beaucoup changé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des choses qu'il y a 5, 10, 15 ou 20 ans, on ne pouvait absolument pas faire?
Oui, on peut notamment traiter par chirurgie à l'aide d'un microscope des infections vasculaires, des infections tumorales profondément situées qui étaient inaccessibles auparavant avec les outils dont on disposait. On a ce qu'on appelle également la neuronavigation qui vient de pouvoir virtuellement se diriger dans le cerveau avec un contrôle en tridimension grâce à une imagerie effectuée en temps réel ou de façon décalée auparavant qui vient de pouvoir atteindre avec certitude des toutes petites cibles qui sont situées dans des zones à haut risque. On peut également traiter par des outils non chirurgicaux, mais à distance, notamment par des agents physiques comme les radiations ionisantes et bientôt avec les ultrasons, des lésions profondes comme des tumeurs inaccessibles aussi. Voilà.
Des nouvelles, en tout cas, de nouvelles compétences et de nouvelles solutions pour soigner. Merci beaucoup. Hein, c'est le moment de vous remercier toutes et tous. Dans l'ordre d'apparition, je rappelle Johan, Maëla, Manon, Erel, Lou, Célian. Merci pour vos questions. Merci à Valérie Esny, institutrice de votre classe de CM1, qui nous a beaucoup aidé hein, pour préparer cette émission. Tout le reste de la classe va rentrer. Si on entend un petit peu de bruit, c'est normal. C'est vivant quand on a 9 ans. Docteur Charles-Ambroise Valéry, c'est vous qu'on entend en fait. Hein. Grand merci de nous avoir éclairé sur le cerveau, la mémoire, de vous être prêté à l'exercice. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au numéro hors série du magazine Le Point, Nouvelles frontières du cerveau. Voilà. Et on dit au revoir, hein, si on m'entend encore. Priorité Santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Ophélie Lassen, Victor Hull et Super Tata, c'est tout Samaké. Demain, dans Priorité Santé, ça intéresse les jeunes aussi. Nous allons parler de la peur du futur. Comment surmonter nos angoisses. 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme les brillants entrepreneurs, profitez d'une assurance épargne et réalisez vos projets en toute assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.